Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien. Et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait chez les ailes.
Bonjour et bienvenue sur votre émission Il est l'heure Monseigneur. Alors cette semaine l'équipe est encore au complet pour vous accompagner en ce début de semaine. Bonjour Jean-Jacques.
Bonjour Raphaël.
Bonjour Josiane.
Salut Raphaël.
Salut Jacqueline.
Salut Raphaël.
Salut Marc.
Bonjour Raphaël.
Et Ricardo qui est maintenant très à l'heure, hein, il a bien appris.
Ouais, bravo.
J'attends les récompenses.
Alors, avant de lancer la première chanson indice pour le deviner le couple mystère, on va demander la petite phrase du jour à Marc pour qu'il nous inspire tout au long de cette émission et de la semaine.
Oui, ben la petite phrase que je vous propose, elle se situe dans le contexte du rugby actuellement, puisqu'on parle de la Coupe du Monde de rugby. C'est une phrase de Pierre Villepreux, qui est un grand joueur de rugby français des années 70, oui. Et qui a dit cette phrase que j'ai récupérée dans une interview sur un journal. Il disait « Tout ce qui n'est pas donné est perdu ». Et bien sûr, il parlait du rugby. Parce que c'est vrai que le rugby, c'est par définition un jeu collectif, c'est le travail d'équipe qui fait aboutir enfin le résultat. Mais je trouve qu'elle nous parle aussi cette phrase donner, le don. On parle beaucoup dans une société qui est où tout est payant, tout est rien n'est gratuit. Eh bien, je crois que voilà cette leçon nous est donnée là. Bon. Tout ce qui n'est pas donné est perdu.
Ben, en l'occurrence, s'il donne pas le ballon au copain, il est perdu. Effectivement.
Ben voilà, okay. Il est perdu définitivement.
Bon, eh bien, écoutez, pour trouver le couple mystère cette semaine, on va chercher un couple télévisuel des années 80. On écoute tout de suite une chanson de Bernard Lavillier qui s'appelle Betty et on en reparle tout de suite après.
Tu n'as pas sommeil. Fume et tu veilles, t'es tout écorché. T'es comme un chat triste, perdu sur la liste des objets trouvés. La nuit carcérale, tombant sur les dalles et ce lit glacé. Aller et venir, soleil et sourire sont de l'autre côté. Ces murs, ces grillages, ces portes et ces cages, ces couloirs, ces clés. Cette solitude, si dure et si rude, qu'on peut la toucher. Ce rayon de lune, sur le sol allume, visage oublié. De celui que t'aimes, qui tire sur sa chaîne, comme un loup blessé. Betty, faut pas craquer. Betty, faut pas plonger. Je sais, ils t'ont couché là. Et puis, ils ont fermé leurs barreaux d'acier. Va rester là. T'aimerais plus te réveiller, plus jamais rêver. Je te dis je t'aime en ce court poème, dans ce long baiser. Tu es ma frangine, juste une féminine que j'avais rimée. Je te donne ma force, mes mots et mes notes pour te réchauffer. Je hais la morale, les prisons centrales, les maisons d'arrêt. Je n'ai pas sommeil, je fume et je veille, et j'ai composé une chanson d'amour, une chanson secours pour l'autre côté. Pour ceux que l'on jette dans les oubliettes, dans l'obscurité. Pendant que les gens dorment au fond du conforme sans se réveiller. Betty, faut pas craquer. Betty, faut pas plonger. Je sais, ils t'ont couché là. Et puis, ils ont fermé leurs barreaux d'acier. Faut pas pleurer, Betty. Faut pas trembler. Tu sais, on se retrouvera là, ailleurs, en plein soleil.
Donc c'était Bernard Lavilliers avec Betty, une chanson que tu as l'air d'apprécier, Jean-Jacques.
Ah oui, non mais j'aimais bien
cette... bien dans le micro.
J'aimais bien cette époque Lavilliers. Oui.
Bon, alors que moi je ne connaissais pas du tout.
Bah c'est vieux. Hein.
C'est une chanson de 1981 qu'il avait écrite.
C'est pas si vieux, on a eu plus vieux.
Ouais. Oui, on a eu plus vieux.
Ça dépend du fuseau horaire.
Non mais et ce que je veux dire, c'est que c'était du temps des 33 tours.
Ouais. Non, si j'allais surtout dire qu'on a eu plus vieux ici, enfin que je connaissais. Ouais. Mais,
Alors on va être sur vraiment les années 80 puisque c'est la période où notre couple télévisuel était à l'antenne. Okay. Donc voilà, 1981, Betty, c'était sur une personne qui avait été incarcérée. 1981, c'était l'abolition de la peine de mort en France. Et alors, je voulais engager avec vous un pour ou contre cette semaine. Alors, on va pas parler pour ou contre la peine de mort, la révocation,
ça
la
restauration. Ça
va être trop polémique. Mais je serais assez intéressé de d'abord savoir si les uns ou les autres, vous connaissez quelqu'un qui a pu connaître la prison.
Oui.
La réponse est oui.
D'accord. Et alors pour le coup, je me suis posé la question, moi, et je me posais la question pour ou contre la remise de peine. Parce qu'aujourd'hui, on entend souvent que les détenus ne font pas l'intégralité de leur peine. Et j'ai envie de dire, vu la surpopulation carcérale, ça semble malheureusement être une méthode de régulation. Mais pourquoi et comment on pourrait, on va dire, être pour ou contre la remise de peine ? Qu'en pensez-vous ?
Tout dépend de la condamnation de la personne et pourquoi il a été condamné.
Alors, dans tous les cas, même s'il prend 15 ans de peine, il purge sa peine comme n'importe quel justiciable. Et pour le coup, normalement, à l'issue de sa peine, il est légal de vous et moi.
Non, alors moi je nuance et je rejoins un petit peu ce que disait les camarades, parce que enfin déjà on part du principe que nous déjà en France on n'a pas le cumul des peines. Aux États-Unis y a viol, on peut dire, il y a séquestration, coups et blessures, et pour un viol tu peux avoir 70 ans 100 ans de prison.
Mais je connais personne qui a fait 350 ans.
C'est du foutage de gueule.
Je comprends, c'est l'extrême, comme beaucoup de choses, je suis d'accord, c'est l'extrême, mais nous pour un viol, on part pour une peine maximale de 6 ans de prison, par exemple. Pour moi, par exemple, un viol, ça détruit une vie, quoi. Enfin, il y a certaines condamnations où on dit, moi, je suis pour la seconde chance. Tout le monde a droit à une seconde chance.
Ça, je suis d'accord.
Mais ça dépend vraiment des motifs, parce que je pense que tout le monde n'est pas récupérable.
Il y a certaines personnes qui restent en danger. Je pense pas que la prison puisse aider à revenir dans le droit chemin.
Pour certaines personnes, oui. Mais pour la plupart des gens, ça les écarte. En gros, on éloigne de la société pendant un long moment, on remet dans la société et la personne doit se réadapter à cette société.
Oui, mais la prison est une société, un microcosme où vraiment là, tu as tous les défauts possibles des humains. Et à mon avis, ça doit pas être un long fleuve tranquille de oui. passer 15 ans en prison.
Et oui.
Oui, non, mais justement, je pense que. La question, c'est la finalité de l'emprisonnement. Et je suis en train de lire justement un livre où il y a un chercheur qui a développé l'idée que, contrairement à ce qui se passait à l'époque aux États-Unis et encore peut-être maintenant, il y avait où les gens on les enferme, c'est très strict. Et là, au contraire, on essayait de faire. Une prison beaucoup plus en contact, enfin où on maintient le contact humain, on donne aux gens la possibilité de continuer à faire des choses en vue justement de leur évolution pour une insertion future.
Ah, ça,
alors et là c'est deux thèses qui s'opposent. Alors la vérité, je sais pas, elle est peut-être entre les deux, mais c'est ça la question de fond. Voilà. Et moi j'ai un fils qui est magistrat, qui a fait un stage dans le cadre de son cursus. Il a fait un stage en prison, il m'a parlé de la prison, et bien maintenant je n'ai plus le même regard sur la prison. C'est-à-dire la prison où ils sont entassés, etc. Oui, d'accord, mais il y a quand même tout un travail qui est fait auprès des personnes qui sont emprisonnées pour essayer de les faire en sorte qu'ils ne ressortent pas sans rien et au contraire
en
difficulté.
Oui, bien parti, pardon. C'est vrai que tout le monde n'est peut-être pas récupérable, oui. mais qu'on essaie de donner sa chance.
Hein. Alors, c'est là, je dis, il faut vraiment du cas par cas, c'est-à-dire oui. au niveau du motif d'emprisonnement, de la personnalité, du risque potentiel de récidive, parce que, oui. voilà, oui. Pourquoi, moi, parce que pour moi, la prison, pour moi, ce n'est pas une punition. Ok, on dit, il y a une privation de liberté, on peut voir ça, moi, c'est, la prison, c'est telle personne constitue un risque pour la santé, donc on l'écarte de la société. Si c'est dans ce motif-là, on remet cette personne-là plus tard.
Attends deux secondes.
Et puis il y a également la volonté de l'être. Est-ce qu'il reconnaît ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a envie de changer? Est-ce
que... bon, alors après, moi, c'est vraiment une thèse de personnalité qu'il faut faire approfondie parce qu'ils te répondent oui. Déjà que de base, ils sont tous innocents. Donc,
comme toutes les questions auxquelles on pose, il n'y a pas de réponse franche et caricaturale.
Elle vient de me dire, Josiane, ça me rappelle le film, tu sais, avec Morgan Freeman et puis quand le mec est resté des dizaines d'années au
Nelson Mandela.
Non. Les évadés. Mmh. Et je veux dire, il passe toujours devant une commission. Et chaque fois, il dit oui. Vraiment, j'ai envie de me remettre.
Dès qu'il est sorti.
J'ai envie de Non, c'est pas ça. J'ai envie de me remettre dans la vie. Je regrette vraiment ce que j'ai fait, tout ça. Et chaque fois, sa demande de libération est annulée.
Oui. Après, je pense que effectivement, dans notre système franco-français, il faudrait distinguer effectivement le crime du délit, déjà.
Oui. Voilà. Mmh.
José Bové qui a fait de la prison parce que il avait démonté un McDonald's. Oui, il a pénalisé des travailleurs. Mmh. Oui, enfin voilà, il méritait.
C'est pas dangereux.
Je parlais quel est le risque pour la société en fait.
Après, effectivement, alors
toi, il y a la punition et le risque pour la société.
Aujourd'hui, quelle est la mission de la prison?
C'est ça la question.
Il y a malheureusement des individus qui n'ont pas eu la chance de pouvoir s'insérer dans la société le plus normalement du monde. Est-ce que la prison peut un peu aider à les remettre dans le moule, quoi?
Et là, moi, ma réponse, c'est non. Parce que, enfin, c'est pour une fois, j'ai une réponse un peu plus tranchée. Parce que pour moi, quand la personne se sentait en dehors de la société, un peu marginale, donc on l'éloigne de la société, on le met en prison, on l'éloigne encore plus de la société.
C'est ça.
Et après, on lui demande de se réadapter à cette société où il a perdu les codes pendant un moment. Et d'ailleurs, même pour beaucoup de crimes. Où par exemple il y a d'anciens braqueurs, j'écoutais un ancien braqueur qui il y a une émission là et il témoignait justement où on parlait de risque de récidive de tout ça. Il dit lui il a récidivé parce que il est ressorti, il avait pas de suivi, il n'avait pas appris d'autres moyens de gagner de l'argent.
C'est ça.
Il a essayé de rester sur le droit chemin pendant un moment, ses amis sont revenus lui reproposer, on va dire en quelque sorte un dernier coup, un deal. Il a réfléchi, il est reparti.
Mais quand il y a un meurtre aussi, c'est quand même autre chose.
Non, mais bien sûr.
Oui, c'est pourquoi on parle du crime, oui.
Mais ce qu'il faut savoir, c'est que déjà actuellement, dans la prison française, il y a tout un travail qui est fait dans ce sens-là. Hein. Donc, faut pas, c'est pas noir ou blanc. Enfin, il y a des problématiques de logement, etc. Mais il y a un travail de fond qui est fait par tous les acteurs, les juges, les gardiens de prison, les responsables, etc. Et moi, j'ai été surpris de ça parce que l'image que j'ai vue de l'extérieur, c'est une catastrophe. On est au banc de l'Europe au niveau des conditions, etc., etc. Donc moi, je crois qu'il faut, c'est plus simple, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît, quoi.
Bon, oui, non, mais après, pour répondre à ta question de départ, moi, je suis plutôt pas pour la remise de peine systématique. Parce que quand tu, je donne un exemple, tu prends 6 ans, tu rentres en prison, tu sais que si tu te comportes bien, tu en fais 3. Enfin, c'est systématique, en gros, voilà. Donc, que ce soit pas systématique, que ce soit vraiment au cas par cas, et que, en fonction de la faute, du délit, de la personnalité, du risque de récidive, de la dangerosité, et voilà, qu'on statue, mais que ce ne soit pas systématique.
C'est ça. Donc on va dans la nuance de gris, du gris clair au gris foncé, et vous l'aurez compris, on n'est ni pour ni contre, bien au contraire.
C'est ça, c'est bien la phrase.
Bon, on va faire une deuxième pause musicale, juste avant de vous faire écouter Yves Simon avec Amazoniac. Juste un indice sur le couple mystère. L'un des deux membres du couple mystère aurait eu une aventure avec David Bowie. Voilà, je vous en dis pas plus, on se retrouve tout de suite après Yves Simon.
C'est pas forcément...
Donc c'était Yves Simon avec Amazoniac. Donc c'est une chanson très années 80 avec le petit saxophone derrière, on disait. Jacqueline, Josiane, Jean-Jacques et Ricardo savent qui est le couple mystère. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelque chose? Je parlais de David Bowie.
Moi.
Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose?
Je ne rajouterai rien là-dessus. Mais je veux dire que c'est vrai que c'était.
Tu disais que ça avait inspiré Thierry Leluron.
Et Coluche.
Forcément. Vous vous rappelez le fameux mariage, le faux mariage de Thierry avec Eddie Barclay. Enfin voilà. Et c'était le truc, ils avaient fait vraiment un truc grand public, complètement fou. Oui. Mais je veux dire que là, il avait fait une déclaration par rapport à lui en sous-entendant certaines choses.
Bon, ça t'inspire, Marc? Marc qui n'a pas trouvé notre couple mystère encore.
Certaines choses pas honteuses du tout, je précise. Mais bon, c'est un aspect de sa vie.
Bon. Alors, moi, j'ai envie de dire, sur un des invités, le mot le plus célèbre, ce serait quoi?
Bonjour.
Alors là, on a mis tout le monde sur la voie, normalement. Ça te parle toujours pas, Marc?
C'est une hypothèse, mais...
Ose.
Yves Mourousine.
On est pas mal, bon, voilà. Donc, avec qui travaillait-il?
Il est même très bien.
Hein. Oui.
Faut retrouver son nom.
Ougri?
Oui.
Ah oui, d'accord.
Ah bon, alors, il y a plus de mystère, moi.
Marie-Laure.
Les chroniqueurs sont trop forts autour de la table. À chaque fois, ils trouvent. Vous êtes pénible un peu des fois.
Désolé.
On fera mieux la prochaine fois.
Bon, alors, ce couple mystère qui n'est plus mystérieux, pendant 7 ans, ils ont accompagné, on va dire, le quotidien des Français avec le 13h. D'ailleurs, je n'ai plus la certitude de la chaîne. C'était sur TF1. Il me semble.
TF1 ou
France 2.
C'était la Une.
Antenne 2 à l'époque.
Oui, mais ça s'appelait comment? C'était la Une.
Ouais. Peut-être la Une, oui.
La première chaîne, voilà.
Bon. Et c'est vrai que le bonjour, il a marqué une génération, je pense.
Bonjour Marie-Laure.
Alors pour le coup, effectivement, Monsieur Mourousi était un journaliste de toujours, hein, de radio d'abord, de télé par la suite. Et Madame Augry, elle a continué sa carrière longtemps, jusque dans les années 2000 sur des médias un peu plus confidentiels. Mais ce matin, je voyais un reportage où elle promouvait le travail d'association contre le SIDA. J'ai trouvé que le ton était beaucoup plus doux que ce que l'on peut rencontrer aujourd'hui dans le journal. On a malheureusement le décès de El Kabach là récemment, qui était très incisif, caustique pour le moins. Là, on était sur une génération beaucoup plus militante finalement que sensationnelle.
Oui, d'ailleurs, tous les deux, c'était un couple un peu improbable. Mourousi était quand même très très directif, et puis Marie-Laure, elle était beaucoup plus
dans la douceur.
À l'antenne. Parce que Marie-Laure n'était pas tyrannique et tout ça, mais par contre, elle était très ordonnée. Alors que lui partait dans tous les sens.
Oui. Je pense que le couple a été vraiment fusionnel parce qu'ils s'apportaient énormément l'un et l'autre.
Josiane, t'as quelque chose à nous raconter, toi?
C'était pas des années où
Elle aime pas parler dans le micro, Josiane.
Non, c'était pas des années où je regardais la télévision. J'avais une vie un petit peu spéciale.
On ne saura pas tout, oui, Josiane. Oui. On ne peut pas tout dire à l'antenne.
Je travaillais beaucoup.
Je
m'occupais de ma fille parce que j'étais toute seule à m'en occuper. Donc ça me prenait déjà pas mal de temps.
Et toi, Ricardo, quel souvenir tu as de Yves Mourousi?
Je sais pas s'il en a un.
Des embryons, je peux vous dire que on a une très belle vue.
Bon. Les années 80.
Non mais c'était quand même le 13h. Ouais. Le 13h.
Le 13h.
Après il y a eu Jean-Pierre Pernaut, c'était vraiment les 13h avec des personnalités, c'était Mourousi et Marie-Laure Augry. Mais c'est vrai que, malgré tout, quand on parlait de Mourousi, on parlait de Marie-Laure Augry. Donc ça veut dire, et pourtant elle était beaucoup plus discrète, mais c'était le couple.
C'était un binôme, quoi. C'était
Alors moi, je me rappelais beaucoup plus de la grenouille d'Albert Simon.
Oui, mais là, c'était la radio seulement, là. C'était Simon, moi je le...
Il parlait comme un saint.
Non.
C'est qui tenait le temps.
Oui, mais Josiane...
C'était à la radio. Hein. Je crois que c'était à la radio.
Bon, On va faire une nouvelle petite pause musicale. Du coup, ça n'a plus rien à voir. Ce n'est plus un indice. C'est juste la musique des années 80. Et je vous propose d'écouter tout de suite Comme quand j'étais môme. Souvenez-vous de qui? Eh bien, Eddie Mitchell, le grand Eddie. Hein.
Ah bon?
Que du bon aujourd'hui. Que du bon.
On essaye. Ah oui. Pour vous servir. Allez, on écoute Eddie Mitchell et on se retrouve tout de suite après.
Comme Hiti, je veux rester ici. Ice cream et sweet home, comme quand j'étais môme. Mais seul dans mon lit, puisque t'es parti. M'invente des photos comme quand j'étais môme. Les rêves, c'est que dans les films, j'ai mal lu le scénario. J'ai peut-être pas le héros que t'imagines. Quatrième zone, comme quand j'étais môme. Tout seul dans mon lit, depuis que t'es parti, j'ai peur des fantômes, comme quand j'étais môme. Scénario, je ne t'aime pas le héros que t'imagines. Mais faut que tu reviennes jouer dans ma vie. Mon Walkman en solo n'amuse plus mon ego. J'ai grandi. Je suis pas comme E.T. Ici, ice cream et sweet home, comme quand j'étais môme, comme quand j'étais môme, comme quand j'étais môme, comme quand j'étais.
Bon, donc c'était Eddie Mitchell avec Comme quand j'étais môme. On a beaucoup dévié sur les chaussettes noires. Hein. On a plus parlé de Johnny et Dick Rivers que de Eddie Mitchell.
C'est oui, toute mais... notre jeunesse. Ah, hein. Oui,
mais en même temps, comme on dit, quand on évoque Eddie Mitchell, tu évoques forcément son grand copain Johnny.
Eh, oui. Mais bien sûr. Eh, oui.
Bon, c'est ça reste un grand personnage, Eddie Mitchell, hein, quand même.
Ouais,
hein.
Ouais, moi j'aime bien.
Ouais.
Moi j'aime beaucoup.
Est-ce que tu as une petite chronique à nous proposer pour l'UFC que choisir, Jean-Jacques, aujourd'hui?
Non. On a eu peur,
On a failli le perdre.
Santé. Les allergènes sur l'étiquette des cosmétiques. La réglementation des cosmétiques oblige désormais les fabricants à mentionner les composants allergènes de leur formulation. Ils ont longtemps résisté à cette mesure, mais leurs arguments prouvent que la santé publique était en jeu. Près de 10 ans après une alerte de scientifiques sur les risques considérables des cosmétiques, les autorités européennes ont enfin renforcé leur réglementation. La dangerosité de certains ingrédients dans les produits de maquillage est largement démontrée, avec des effets sur la peau, les yeux, les poumons. Jusqu'ici, la présence de 26 seulement d'entre eux devait être mentionnée au-delà d'un seuil. La liste comprend désormais 80 composants critiques, comme l'huile essentielle de girofle, l'essence de térébenthine ou l'extrait de ylang-ylang. Ouais, c'est vrai que et l'huile essentielle de girofle, je me dis, oh putain, ça doit être bien ça.
Mmh. Ah oui.
Donc je pensais que c'était un clou, moi.
C'est bien tard pourtant. Et la résistance des industriels va encore allonger la prise d'effet de ces nouvelles normes. Ils ont 3 ans pour modifier leurs étiquettes et peuvent écouler leur stock pendant 5 ans.
Ça a le temps de faire des ravages.
Ça, c'est... Les professionnels admettent d'ailleurs que plus de 50% de leurs références sont concernées. Il est vrai que leurs produits seront beaucoup moins séduisants avec une liste interminable d'allergènes. On peut ainsi espérer que ce changement va contraindre la profession à privilégier des compositions plus simples et naturelles. Pour rappel, l'application Quel produit de l'UFC que choisir permet de vérifier les risques de milliers de cosmétiques avec une grande fiabilité. Elle est gratuite et a été financée par les dons des consommateurs. Je le répète, cette application est totalement gratuite. UFC que choisir s'appelle Quel produit.
Merci Jean-Jacques.
Que j'utilise aussi d'ailleurs.
Moi en permanence. Hein.
Oui, c'est un réflexe. Alors moi je l'utilise pas que pour le cosmétique. Un réflexe aujourd'hui, je vais quelque part, je scanne le code barre et tu as toute la liste de tout et ça te dit les produits dangereux potentiellement. Et ce qui est bien, c'est que ça te donne des équivalents. Ça te dit tu peux acheter telle chose à la place.
Alors pour information, alors si on sort un peu des cosmétiques, hein, vous savez que le Nutri-Score va évoluer. Le Nutri-Score jusqu'à présent était là pour dire il y a trop de sucre, trop de sel, trop gras, voilà. Là maintenant, il va parler des produits qui peuvent être dangereux dedans, notamment dans les produits qui sont complètement transformés.
C'est-à-dire que quand tu fais tes courses,
il va tenir compte de ça.
Au lieu de mettre une demi-heure à mettre tes produits dans ton caddie, tu mets une journée entière à lire toutes les étiquettes.
Non, ça va très vite parce que une fois que tu l'as fait, une fois que tu connais le produit, les produits que tu prends d'habitude, ça va très vite.
Et ouais, il faut que tu scannes tous les produits.
Ça se fait très vite.
Tu le fais à la maison.
Et moi, je fais mes courses par Drive aussi aujourd'hui, donc c'est encore plus facile. Je tape dans
tout en ce que je dis. Tout en sachant que ces
problèmes de génération.
Tout en sachant que ces applications-là ne sont pas des applications obligatoires. Tu fais ce que tu veux, tu achètes ce que tu veux.
Tu les achètes d'abord et tu scannes après.
Donc je veux dire que.
Tu les manges et tu scannes après, c'est ça l'étiquette avant de jeter.
Et souvent, c'est vrai que tu prends le truc et puis tu dis, oh zut.
Non mais après, ce qui est poison, c'est la dose. C'est pas le produit toujours en lui-même. Ça dépend.
C'est pour ça que les seuils sont importants. Si tu en manges tous les jours ou si tu en manges, voilà, bien entendu.
En fait, le chocolat à outrance, c'est dangereux pour la santé.
L'excès en toute chose nuit, c'est pour ça que je vous vois le moins souvent, par exemple. Non mais l'excès en toute chose nuit.
C'est pareil pour nous-mêmes.
Qui aime bien châtie bien.
Non mais c'est vrai.
Mais heureusement,
il part 3 semaines.
on fait débarrasser. Mais c'est surtout, et là je rejoins Jean-Jacques, c'est que c'est surtout pour les produits que on utilise fréquemment. Par exemple, le lait de corps, quand tu utilises tous les jours, c'est quand même bien de savoir que le produit que tu utilises n'est pas délétère pour ta santé.
Forcément, ton fond de teint que tu mets tous les jours, c'est quand même compliqué. Hein.
Il en met une sacrée couche. Ouais.
Mais les produits de maquillage que tu utilises tous les jours... Effectivement, là.
C'est mais surtout que la peau, c'est quand même une voie d'entrée extraordinaire.
Non, mais après, le marketing est quand même puissant. Je voyais un dentifrice l'autre jour, 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Mais moi, c'est le 1% qui me préoccupe. Est-ce que le 1% est dangereux ou utile?
Alors, là, tu parlais d'allergène. D'allergène, donc l'allergie, d'accord. Mais il n'y a pas que l'allergène. Il y a aussi les produits qui peuvent générer des maladies, maladies, les cancers,
En l'occurrence, dans l'allergène, enfin, la cacahuète, c'est un allergène.
Il faut dire que quand même, dans l'application, on t'explique ce genre de choses.
Voilà, c'est ce que je l'ai dit.
Bien entendu, ça peut générer des allergies, mais ça peut être très dangereux pour la santé.
Ah oui,
et
c'est
notamment.
Ça. Ah oui, d'accord.
Aujourd'hui, moi, j'ai la chance d'avoir très peu d'allergies. C'est pas ce que je regarde en fait. Limite, les allergènes, on va dire, quand je tombe là-dessus, quand je les connais, je vois qu'il y a pas trop de risques et tout ça. C'est ça m'embête moins. Moi, c'est les perturbateurs endocriniens, les produits cancérigènes ou cancérogènes qui sont listés dans certaines choses qu'on mange tous les jours. certains paquets de gâteaux, de chips, ou dans les cosmétiques qu'on connaît, où on te demande pourquoi aujourd'hui, bon, ben, nos auditeurs seraient peut-être moins concernés, mais pourquoi il y a une baisse de la fécondité, hein,
oui. Chez, voilà. Et justement, on comptait sur toi.
Pour repeupler la terre. Pour repeupler la terre. J'y travaille. Mais,
Non, mais c'est le plus dangereux, c'est l'abus.
Oui.
Abuser de produits qui ont ce genre de. Ça génère quelque chose.
Non, mais il y a certains produits où il y a l'abus, où il y a certains produits, on ne comprend même pas pourquoi c'est en circulation. En fait, c'est ça.
Parce que le marketing est trop fort. Enfin, aujourd'hui, est-ce qu'on a réellement besoin d'avoir toujours le parfum? Est-ce qu'on a toujours besoin d'avoir le shampoing
qui fait ceci, qui fait ça? Si.
Oui.
Et c'est vrai que t'as raison. Le marketing est très fort et il commence très tôt. Au niveau, par exemple,
tout ce qui
est cosmétique, c'est au niveau des jeunes, des très, très, très jeunes. Et on voit des jeunes filles, par exemple, mais d'une dizaine d'années, qui commencent à se maquiller, etc. Et même c'est encouragé par leurs parents.
Avec ma fille Héloïse de 12 ans, moi, je vois déjà, effectivement, dans ses copines, il y en a plein qui sont des consommatrices.
Des consommatrices.
Voilà.
Et ça, c'est l'effet de la publicité, du marketing. Et...
Moi, je résiste encore un petit peu. J'achète pas tout ce qu'on me demande, mais. Mais bon.
Jusqu'à quand?
Ok, donc la cosmétique, en fait, utile pour les transports en commun, mais ne pas en abuser. Non, hein, c'est bien ça.
Conclusion, c'est que sans tomber dans une forme de parano, de les produits à usage régulier, quotidien, ça coûte rien de scanner une fois le code barre, savoir ce qu'on utilise, quoi. Et si on a une alternative, parce que ça propose quand même une alternative, si on a une alternative à côté, au même prix ou ça, qui enlève au moins ce risque-là, bah, tant mieux.
C'est évident.
C'est de la prévention.
C'est ça. Le renseignement, bon, on dit, ce produit, bah, il est dangereux sur certains trucs. Et puis surtout, bah, regardez, vous en avez d'autres qui sont bien mieux.
Bon.
Alors, c'est simple, hein. C'est souvent des couleurs, hein. C'est rouge, vert.
Oui,
c'est quand c'est rouge, c'est pas bon. Quand c'est vert, c'est, allez-y.
Pour revenir à la petite phrase de Marc, si les fabricants donnent la recette, c'est pas perdu.
Exact.
Eh oui, bon. On se fait une nouvelle petite pause musicale?
Oui. Avec une très bonne chanson encore.
Voilà, les années 80.
Ton choix était bon jusqu'à. Bon, on continue.
On continue? Alors, on continue avec du Michel Berger, avec Chanter pour ceux qui sont loin de chez eux.
J'adore cette chanson.
À tout de suite.
Particulièrement.
La nuit à regarder les étoiles en pensant qu'au bout du monde il y a quelqu'un qui pense à lui. Et cette petite fille qui joue, qui ne veut plus jamais sourire et qui voit son père partout, qui s'est construit un empire. Où qu'ils aillent, ils sont tristes à la fête, où qu'ils aillent. Ils sont seuls dans leur tête. Je veux chanter pour ceux qui sont loin de chez eux et qui ont dans leurs yeux quelque chose qui fait mal, qui fait mal. Je veux chanter pour ceux qu'on oublie peu à peu et qui gardent au fond d'eux quelque chose qui fait mal, qui fait mal. Qui a volé leur histoire? Qui a volé leur mémoire? Qui a piétiné leur vie comme on marche sur un miroir? Celui-là voudra des bombes, celui-là comptera les jours en alignant des bâtons comme les barreaux d'une prison. Où qu'ils aillent. Ils sont tristes à la fête où qu'ils aillent. Ils sont seuls dans leur tête. Je veux chanter pour ceux qui sont loin de chez eux et qui ont dans leurs yeux quelque chose qui fait mal, qui fait mal. Je veux chanter pour ceux qu'on oublie peu à peu et qui gardent au fond d'eux quelque chose qui fait mal, qui fait mal. Chanter pour ceux qui sont loin de chez eux et qui ont dans leurs yeux quelque chose qui fait mal, qui fait mal. Quand je pense à eux, ça fait mal. Je pense à eux, ça fait mal.
Donc c'était Michel Berger. Il y a une bataille de micro dans le studio. Avec Josiane a agressé Jacqueline.
Avec les demoiselles de Rochefort.
C'est la guerre. La guerre est déclarée.
Donc c'était Michel Berger avec Chanter pour ceux qui sont loin de chez eux. Dans un monde où la migration devient, on va dire, presque une constante, c'est effectivement des paroles un peu fortes. Et entre les migrants climatiques, les réfugiés politiques, les victimes de guerre, elle va encore être utile quelques temps, cette chanson.
Ça fait, dans ma tête, ça fait écho à la chanson de Jean-Jacques Goldman aussi, pour qui partait vers là-bas, la chanson.
Oui, effectivement. Marc, on ne t'a pas interrogé sur Yves Mourousi et Marie-Laure Augry. Bon, toi, il ne t'a pas laissé un grand souvenir. Comme Josiane, tu n'étais pas devant ton écran à 13h.
C'est-à-dire que je regardais rarement à cette heure-là.
Ouais.
Donc, je le connaissais, Yves Mourousi, ses grands interviews. Hein, il a interviewé des grands personnages politiques ou artistiques. Je trouvais ça intéressant. Mais non, je regarde pas trop la télé le midi, moi. Donc, entre midi et deux.
Ce qu'il dit, Marc, c'est vrai. Mais ça a tellement été repris depuis, puisqu'il a fait quand même des scoops.
Oui.
Il a fait des trucs. On se rappelle toujours de son interview de Mitterrand, quand il parle connecté, branché, tout ça. Ou même quand il s'assoit devant le président et il est assis sur le bord du bureau.
Oui.
C'est-à-dire que complètement.
Oui, il était un peu impertinent.
Ça avait un côté.
Ah, il était totalement impertinent. Mmh.
Je veux dire, c'est vrai que c'est. Et puis, bon, quand il était dans l'avion de chasse, je me rappelle. Enfin, il y a eu pas mal de. Il trouvait le truc, quoi. Alors, évidemment, Marie-Laure. Marie-Laure Augry restait dans le bureau, tout ça. À vous, Marie-Laure, et tout ça. Mais lui, il était sur le terrain, il y allait, quoi.
Oui. En tant que journaliste, il y allait, quoi. Il
était décapant par moments.
Et qui, dans les journalistes, vous ont laissé un souvenir, on va dire, vraiment particulier, un côté éditorial spécifique Enfin, aujourd'hui, si on regarde les présentateurs, pareil, ils marquent le quotidien.
Alors,
des Français.
Alors, avec des styles complètement différents. Ouais. Parce que bon, moi je me souviens du journal de Jean-Claude Bourret, ça n'avait rien à voir, mais c'était bon, on aimait pas, hein, c'est-à-dire que évidemment, alors Il Kabach n'a jamais présenté le journal, mais les grandes émissions politiques, c'était lui avec Duhamel,
hein. Oui, et Kabach. Puis la femme du médecin, comment s'appelle-t-elle?
Il y avait comment ça? Oui, la femme de Kouchner.
Oui.
Sinclair.
Non.
Mais Anne Sinclair, moi, elle m'a.
D'origine belge, d'ailleurs.
Anne Sinclair, quand elle faisait son émission, là, le dimanche soir, j'aimais beaucoup. Et il y en a aussi dont je me souviens, c'est Paul Amar. Je sais pas si elle se voulait quelque chose.
Paul Amar, oui, moi, j'aimais bien.
Et quand il avait dit donner les gants de boxe à Taki.
Oui, voilà. Parce que lui, Paul Amar.
Ah, c'était lui, ça.
J'aimais
c'était
bien, lui, oui.
Paul Amar.
Je vois que personne n'a cité Calzero.
Le côté éditorial était peut-être un peu moins approfondi.
Christine Ockrent.
Voilà, Christine Ockrent.
Qui est dans la grosse tête maintenant.
Oui.
Belge, oui.
Bon. Ouais. Allez, est dans...
Moi, je la trouvais vraiment.
Elle était à sa place.
Michel Cotard. Bah,
c'était la première fois une femme présentée vraiment.
Avait, Michel Cotard aussi qui était. Il y avait Michel Cotard.
Alors, Michel Cotard, il y a eu Anne Sinclair aussi.
Anne Sinclair.
Anne Sinclair.
Anne Sinclair.
Et pour le coup, enfin moi, je pense que c'était pour certains l'aboutissement d'une carrière, pour d'autres des tremplins. Je pense à Noël Mamère, par exemple, qui a présenté aussi les journaux télévisés. Mais je ne sais pas s'il l'a fait longtemps, en revanche.
Pas très longtemps, mais il l'a fait.
Ouais, il l'a fait pendant quelques années.
Et donc, effectivement, aujourd'hui, c'est un métier d'aller provoquer les politiques, et puis pour d'autres, c'est un tremplin, quoi.
Mais il y avait une différence entre le journal de 13h et le journal de 20h.
Ah oui, complètement. Bah oui. C'est pas du tout le même exercice.
Devant le journal de 20h, tout le monde y était. Enfin, tout le monde y était. Souvent on dîne devant, quoi. Alors que le journal de 13h, bah différent.
Le journal de 13h, je le regardais pas parce que je ne rentrais pas à la maison.
Il y avait ça, et il y a aussi entre la semaine et le week-end. Pas pareil, c'est pas les mêmes présentateurs. Il y a longtemps que les chaînes ont adopté ce genre de système.
Oui, mais il y a pas les mêmes auditeurs ou téléspectateurs, et ils ciblent en fonction.
C'est vrai qu'à 13h,
c'était la femme de plus de 50 ans, enfin la ménagère de plus de 50 ans, les retraités, etc.
J'ai horreur de ce terme, la ménagère de plus de 50 ans.
C'est comme ça qu'ils le disaient.
Ils le disent toujours.
Les sondeurs, c'était ça. Et en plus, notamment, bah, c'était repris par Jean-Pierre Pernaut, c'était son intuition à lui,
comme
c'était
si
de
la
dire
femme devait être ce qui se passait
dans les régions. Ils s'appuyaient sur ça pour. Ils ont développé tout un réseau de journalistes dans les départements et les régions pour présenter ce qui se faisait localement.
Et avant, il y avait le journal de 13h, il y avait le journal de 20h, et il y avait le journal de après le programme.
Oui, c'est ça.
Oui,
c'était sur la 2, sur la 3. Alors sur la 1, je me rappelle.
Le journal de après le programme.
Ah oui. À 22h, 23h,
ça me parle.
Le journal de la nuit.
Il y a toujours sur France 3, ça, non?
C'était pas une rediffusion, le journal de la nuit?
Non, il n'y a plus.
Sur la 3, comme tu dis, il y avait, mais je crois que c'est.
Ils avaient ciblé cette fin de soirée, oui, bien sûr.
Alors maintenant, il y a les chaînes d'information maintenant.
Mais les programmes commençaient beaucoup plus tôt.
Aujourd'hui, il y a toujours des informations.
Maintenant, si tu fais des informations, t'attends pas le journal de 22h, 23h. Maintenant, tu te mets sur n'importe quelle chaîne dont je tairai le nom.
Oui, puis les programmes commençaient à 20h30. Maintenant, ils commencent à 21h15. Au moins.
Apparemment, ça râle, hein. Et là, je suis pas persuadé qu'ils vont pas changer, parce que il y a des pertes de pro, il y a des pertes
Tu te rends compte, les gens qui travaillent, maintenant, le moindre programme se termine au bas mot vers 23h. Bon, bah, pour les gens qui se lèvent très tôt et qui travaillent dans la journée.
Surtout que les films, en général, dépassent allègrement les 2h. Ouais. Pousse loin.
Hein. Après, moi, mon seul regret de télévisuel dans l'évolution, c'est qu'il n'y a plus de soirée débat.
C'était formidable.
On pouvait assister. Les dossiers de l'écran.
C'est encore plus ancien.
Les dossiers de l'écran, ça, c'était une émission mythique. Ouais.
Moi qui étais interne au lycée, c'était une autorisation. On regardait ça le mercredi soir.
Mais c'était instructif. Hein.
Par contre, il y a quand même une émission actuellement, c'est Karim Rissouli. Sur la 5.
C'est ce soir,
et il fait un débat. C'est un débat sur des thématiques.
Mais je regarde souvent, mais
moi j'aime bien.
C'est pas consécutif à un film, par exemple, qui peut apporter une thématique lourde.
Ben, t'as les docs sur la chaîne 13.
On a perdu Ricardo là.
C'est vrai qu'anciennement il y avait ces gens où c'était un film où
il y avait toujours un débat.
Et
après,
à la suite, ils revenaient en plateau pour en débattre.
Non, mais c'est vrai qu'il y avait pour rebondir là-dessus. C'est-à-dire les dossiers de l'écran et même ça a été repris dans le film Azut avec Michel Blanc ils ont fait une satire du dossier de l'écran où à la fin ils se castagnent sur
Papy fait de la résistance.
Polak. L'émission de Polak, ça c'est autre chose. Michel Polak.
Le samedi soir.
Ça fumait dur.
Quand il y avait Gainsbourg, quand il y avait l'équipe de Charlie Hebdo.
Il y en avait qui quittaient la scène avant la fin de l'émission.
Ce que tu n'as plus. En ce temps-là, on pouvait le faire.
Ah bah oui.
Mais j'ai envie de dire, on est peut-être un peu trop politiquement correct aujourd'hui, et le moindre débordement est sanctionné, on va dire, par l'ex-CSA.
C'est assez paradoxal. À la fois, on dit il y a beaucoup de censure, mais je trouve que l'accès, on prend plus le temps de discuter et de débattre. C'est que il y a plus de filtre entre l'idée et la violence. Chacun ses idées, veut rester cantonné là-dessus, on ne s'écoute plus. Et que ce soit la violence verbale ou physique, on a ça, je parlais de manière triviale, mais on dégoupille très rapidement, je trouve. Mmh. Et c'est alors, plus possible. Il y a moins, c'est plus possible.
Une exception, c'est l'émission C'est dans l'air, si. Où justement, il n'y a jamais de contradiction. Ce que je veux dire, chacun s'écoute. Mmh. Et d'ailleurs, que ce soit Caroline Roux ou Axel de Tarlet, il menace, il dit.
Hein, oui, puis alors c'est toujours des intervenants vraiment extrêmement calés au niveau de leur sujet.
Ils ne s'agressent pas.
Justement, est-ce qu'on, je réagis à ce que tu dis, Ricardo. Est-ce que finalement, les réseaux sociaux maintenant c'est sans filtre et les télévisions, les radios, c'est avec filtre.
Oui, enfin, c'est un peu ça.
Il y a un peu de ça quelque
c'est
part.
Un peu de ça, oui.
Oui, mais les réseaux sociaux, c'est une calamité parce que chacun a un avis sur tout et n'importe quoi sans connaître les personnes. C'est ça qui est terrible.
L'anonymat et qui exacerbe ça. Mais après, moi, je trouve que ce n'est que le reflet de la société. C'est juste que les gens osent dire tout haut ce qu'ils n'osaient pas, ils n'osent pas dire. Je pense pas qu'ils en pensent moins quand ils sont nos collègues, avec nous. C'est juste que la société, comme il y a plus l'anonymat, ils le gardent pour eux, ils le respectent. Et sinon. C'est tout pareil. Hein.
Oui, mais enfin, je trouve que c'est quand même une société quand même terrifiante.
Je trouve qu'on a juste les personnalités des gens, qui l'hypocrisie qui nous rejaillit.
Qui apparaît.
Mais normalement,
peut-être pervertie par l'anonymat, mais oui.
Il y a aussi la manière dont tu as été élevé et puis les retenues que tu dois avoir par rapport à certaines personnes.
Oui,
mais tu ne peux pas lâcher tout et n'importe quoi.
Justement, et c'est ce que je dis, ça n'empêche pas ces gens-là de le penser. Ils ne le disent pas, parce que c'est politiquement correct.
Entre le penser et le dire, c'est quand même très différent.
Je suis d'accord.
Et là, c'est vrai qu'on n'est plus en vis-à-vis, on n'est plus au contact. Mmh. On est à distance et d'une manière anonyme. Donc là,
ça on balance.
Oui, mais justement, ça permet de libérer une parole qui n'est pas toujours...
Et qui peut faire très mal. On le voit avec les jeunes qui sont harcelés dans les écoles.
Malheureusement, c'est le but. Parfois, j'ai l'impression, on a l'impression que c'est la méchanceté gratuite et juste pour piquer.
On est en train de dresser un mauvais visage quand même de l'information aujourd'hui.
Moi, je reste optimiste quand même parce que
après, effectivement, il faut qu'on puisse tous se confronter à la contradiction. C'est comme ça qu'on évolue, à mon avis.
Oui.
Et puis, là, je vais vous arrêter tout de suite. Hein.
Je ne sais plus, mais on a un spécialiste.
Vous m'écoutez, je suis pour la contradiction et c'est pour
voilà. Quelqu'un, un philosophe, qui disait « Si deux hommes pensent la même chose, il y en a une trop.
» Elle est bien, celle-là aussi.
Elle est pas mal. Bien.
Bon, on va faire la dernière pause musicale. Je vais essayer de terminer en beauté pour vous. Hein, aujourd'hui, on va écouter Françoise Hardy avec... Partir quand même. Ah. Voilà. Hein. Ce sera le dernier morceau avant de partir à notre tour pour deux semaines. OK ? Et on se retrouve tout de suite après.
Il pleut.
Donc c'était Françoise Hardy avec Partir quand même. Bon, cette semaine on voulait faire une petite programmation musicale en douceur.
C'était
voilà.
Parfait.
On a besoin d'un peu de douceur là
on
dans ce monde de brut.
Hein.
Voilà.
C'était la semaine miel.
J'espère que voilà, ça vous aura détendu en ce début de semaine.
Non, mais c'était des très bonnes chansons surtout.
Bah,
c'est pas parce que non, mais t'as des chansons douces qui sont.
Oui, alors.
Chiants. Si mes petites filles m'écoutaient comme ça, ça veut lire.
Après, comme on disait hein, tout à l'heure, dans les années 80, il y avait le pire et le meilleur qui se côtoyaient
tout
dans les
fait.
Hit-parades. Hein. J'aurais pu mettre du Richard Gottener. Alors c'était de l'absurde et du parodique, c'était rigolo, mais ça avait pas la qualité musicale de ce que je vous ai programmé.
Pas si loin que ça. On a quand même eu. Il est beau le lavabo en top.
Oui, ça va aller aussi.
Longtemps.
Bon.
C'est à se demander comment c'est possible.
Ah ben, la gaffe que j'étais môme, je l'adorais, moi.
Oh, qu'il est beau, qu'il est beau.
Bon, Jacqueline, on va essayer d'élever un petit peu le niveau. Est-ce que tu as des petites expositions à nous conseiller cette semaine?
Oui, tout à fait. Alors, il y a une exposition sous vitrine en salle de lecture au repère urbain, le RUE, 35 boulevard du Roi René à Angers, dans le jardin des Beaux-Arts, du mardi au samedi, de 13h à 17h. C'est une exposition sur le Palais des Marchands qui se trouvait rue Baudrière, parti en fumée le 21 novembre 1936.
Bon, et pour le coup, c'est gratuit.
C'est gratuit.
Voilà. Alors, vu le temps qu'il fait actuellement, on vous recommande vivement d'aller vous promener et puis de profiter du jardin des Beaux-Arts et de
qui est absolument magnifique.
Ok.
Pour ceux qui ont m'aventuré, il y a l'abbaye de Fontrevraud là qui très belle abbaye des Yacques.
Ils font
il y a une expo de Rembrandt actuellement.
Oui. Mmh.
Mais rien que l'abbaye même à visiter, c'est magnifique.
C'est fini les travaux.
Terra Nocta, c'est Terra Nocta.
Parce qu'il y avait des travaux.
Oui. Hein, bah, moi, je l'ai fait lors de la journée du patrimoine.
Bon, les amis, on se retrouve dans une quinzaine de jours pour une nouvelle émission d'Il est l'heure, Monseigneur. Et comme disait Valérie, au revoir.
Au revoir.
À bientôt.
Sur les chemins,
sur les chemins,
sur les chemins,
à bicyclette,
bicyclette. Nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand,
il y avait Firmin,
il y avait Francis et Sébastien. Et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait chez les ailes,
chez les ailes,
chez les ailes. À bicyclette.
Radio G. www.radio-g.fr